Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est rappeur, acteur et metteur en scène. Sa voix est reconnaissable entre toutes. Et ça tombe bien, pas seulement parce qu'on est à la radio, mais parce qu'il met aussi sa voix au service de grands noms de la littérature politique. D'abord, dans le spectacle Black Label, manifeste antiraciste, mise en scène avec David Bovet, on peut l'écouter lire et déclamer les textes, entre autres, on va y revenir, de Léon Gontran Damas, Aimé Césaire ou James Baldwin. Et ensuite, dans la série Machine, qui sera diffusée sur Arte, c'est à Karl Marx qu'il s'attaque, jouant un ouvrier passionné par le philosophe du Capital, faisant de ses phrases des mantras quotidiens. De quoi donc écouter encore plus sa voix.
Et donc pour l'écouter, je vous salue. Joystar, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans les Midis de Culture.
Merci.
Joystar, d'où vous est venue cette idée avec David Bobet de Black Label, ce spectacle qui est présenté comme un manifeste antiraciste?
Bah déjà, ça part d'un cadeau que m'a fait David. On avait fait déjà, enfin, il avait mis en scène Elephant Man il y a quelques années, et ça s'était bien passé. C'était ça fait partie de mes premières vraies sensations de théâtre. Avant ça, je n'avais fait que des lectures, et donc la rencontre a été, enfin voilà, on est devenus très proches. Il m'a offert un livre de Léon Gontran Damas, que je connaissais comme ça, je connaissais le nom parce que il faisait partie du cercle de Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire, voilà. Mais j'avais pas lu et j'ai lu Black Label, ce livre donc, qui est un long poème. Et de là, sont nés des échanges entre David Bobet et moi et un jour il m'a dit, bah écoute, t'as pas envie qu'on se fasse une mise en scène ensemble? Déjà, gros cadeau parce que quand on connaît les faits d'armes de David Bobet, moi qui ai rencontré le théâtre il y a pas très longtemps en plus, on me propose une mise en scène au bout de, je sais pas, 4-5 ans de, enfin voilà. Et comme j'aime sortir de ma zone de confort, j'ai tout de suite dit oui avant de comprendre vraiment ce que ça voulait dire, voilà. Parce que c'est une...
Vous avez regretté?
Ah, jamais. Non, pas. Je peux regretter de ne pas avoir, enfin il a une vraie connaissance de tout ça. Moi je débute, j'ai fait ma première mise en scène avec Clarisse Fontaine sur une pièce qui joue en ce moment, qui s'appelle Cette petite musique que personne n'entend,
au théâtre des Mathurins, c'est ça?
Merci, ouais. Et voilà, on n'avait pas de budget, c'est une pièce qu'on a montée avant le confinement et qu'on a tenu à bout de bras. Aujourd'hui on peut la jouer, enfin voilà, avec tous les problèmes. Et puis j'apprends en marchant, quoi. Donc et au contact de David, dans ce coup on a un vrai théâtre, enfin voilà,
c'est une grande scène,
voilà, c'est le jour et la nuit, les moyens, et puis une équipe aussi pour, ouais. Parce que il y a pas que nous, il y a toute une équipe pour sélectionner les textes, et après nous c'est nous qui avons fait tout le boulot de, ok, on les prend, mettre ça en spectacle déjà, parce que c'est quand même un sujet, en fait le spectacle est en trois strates. Au départ, on est en 1222, c'est un texte qui nous vient du Mandem, c'est au Mali, et qui ressemble étrangement à la charte des droits de l'homme.
Ouais. Voilà. Sauf que ça date de 1222. C'est dingue, hein.
Ouais. Et de là, donc cette strate-là, c'est l'esclavagisme. Et après, la deuxième strate, c'est l'industrialisation et la colonisation. Mmh. Et la troisième strate, c'est le tissu social que cela crée aujourd'hui encore. Voilà, où on comprend qu'en fait, tout ceci n'est pas qu'une histoire d'Africains, mais surtout une histoire, indépendante de l'histoire du monde, quoi. Donc voilà, monter ça en spectacle et puis surtout après, moi j'ai proposé une contrebassiste qui chante aussi.
Donc voilà, c'est Hélène Saint-Aimé.
David de son côté a convoqué un chansigne.
Alors chansigneur, voilà. Moi je connaissais pas ce terme de chansigneur. Ah voilà. Donc c'est un interprète en langue des signes.
En langue des signes, mais l'idée c'est que il n'est pas comme la vision qu'on en a en général, c'est le journal télé avec quelqu'un en petit en train de
tacler. Dans un coin.
À droite, oui.
Voilà. Là, il n'accessoirise pas le spectacle, il fait partie intégrante du spectacle.
Mais il est même spectacle. Au centre de la scène.
Complètement. Et puis surtout, je me suis rendu compte, enfin, j'ai appris que Par exemple, cette personne est guadeloupéenne et toute cette histoire qu'on raconte, dont il est directement concerné aussi, en fait, il n'en a pas accès parce qu'il est sourd et muet, justement. Et qu'il n'y a pas de lecture, il n'y a pas rien n'est adapté pour qu'ils aient accès à ça. Donc ça aussi, ça m'a paru assez vertigineux. Donc voilà, il y a un travail de legs dans tous les sens que j'adore dans cette histoire-là, parce qu'on a des gens qui sont venus nous voir quand on a joué au Théâtre du Grand Nord, des gens du corps enseignant, et qui nous ont dit « Ouais, vous nous avez fait un cours d'histoire en augmenté, enfin super ému. » Voilà. Et puis surtout, ça touche tout le monde, en fait. On comprend...
Mais comment s'est fait ce passage?
Certaines choses qui se passent aujourd'hui aussi. Oui, pardon.
Comment s'est fait c'est passé justement cette idée, vous avez dit, j'avais jamais fait de théâtre, j'avais fait des lectures, comme si c'était différent.
Non, mais c'est, oui, voilà.
Là, il y a vraiment, en fait, c'est un texte, un spectacle qui est vraiment, dont la matière, c'est vraiment le texte, qu'il faut habiter, qu'il faut interpréter, mais c'est pas que de la lecture, vous dites.
Oui, c'est pas que de la lecture. Le décor est très simple, il est tout noir.
Avec des très épuré, on peut le dire.
Des projections, on est tous quasiment habillés en noir, donc en fait, c'est aussi une manière de nous mettre en retrait, de mettre en avant le texte et tout ce qui nous envoie, quoi. Mmh. Voilà, quoi. C'était ça l'idée, de faire quelque chose de très épuré. Il y a des projections, il y a de la musique, mais pareil, quoi. Ça agrémente, il y a de la contrebasse, de la percussion, et puis deux voix, celle du danseur et celle de la contrebassiste. Enfin voilà quoi.
Est-ce qu'on peut vous écouter lire un des textes?
Mais je n'ai pas mes lunettes. Pourquoi vous me faites ça?
Ouais, mais non, en fait, je sais que vous arrivez à lire ce texte-là puisqu'on en a parlé juste avant. Vous arrivez à le décrypter?
Oui, il est écrit très gros, donc
j'aurais Police 36. Voilà. C'est un texte d'Eva Doumbia de 2020 qui est extrait de son livre Autophagie pour la présenter. Eva Doumbia, c'est une metteur en scène et auteure d'origine malienne, et elle parle ici du sucre. C'est un des très beaux textes. Ils sont tous très beaux, mais celui-ci m'a particulièrement marqué quand j'ai vu votre spectacle. Je vous donne la parole, Joessa.
Eh bien, j'y vais alors.
Allez, c'est parti.
C'est donc en l'an 1492 que Christophe Colomb pose son pied sur une terre qu'il croit indienne. Le désir d'or et d'Orient avait aiguillonné le navigateur italien. Colomb cherche Gengis Khan en Caraïbes. Le colon est déboussolé. Je ne sais pas où est l'Orient. Je n'ai jamais eu le sens de l'orientation. Précolombien, Colombie, mésocolombien sont les mots de ma honte désorientée. En 1502, les caciques caraïbes offrent des fèvres de cacao à l'homme au patronyme catastrophique. Colomb jette au flot les précieuses fèves, y croyant voir les excréments séchés de chèvres. On dit que ce sont des carmélites espagnoles qui l'agrémentent pour la première fois de sucre de canne. On dit le lait et le miel biblique ont prosélyté l'amertume cacaoïère des spiritualités aztèques. Tout s'amplifie à la Renaissance, et c'est pire au temps moderne. Au XVIIe siècle, les monuments candis édifiés par les pâtissiers des cours princières pourrissent ici les dents du roi Soleil, tandis qu'ont été abattus là-bas les pyramides amérindiennes. Exportation, importation, exploitation, extermination. Personne ne pourra plus jamais dire avec précision la violence subie par ceux qui n'auront jamais compris pourquoi on les traitait si mal. Voilà.
Merci beaucoup.
Et c'est ce texte en plus qui ouvre justement la deuxième strate de
sur la colonisation,
enfin voilà.
Sur ce choix de texte, vous avez dit qu'il y avait effectivement trois strates. On a une multiplicité de points de vue, d'époques, de personnalités. Vous ne pouviez pas être complètement exhaustif, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas dit. Un fil conducteur, c'est quand même celui de la colère. Vous avez aussi écrit un texte, Joestar. Mmh. Le mot colère y apparaît. Ce terme-là apparaît beaucoup. Là, vous l'avez lu de manière... On est dans un studio, ce n'est pas du tout la même ambiance que sur une scène. Il n'y a pas en plus de percussion ni rien. Est-ce que la colère, ça a été un moteur aussi dans ce choix des textes et dans l'interprétation de ces textes?
La colère a toujours été un moteur pour moi, enfin...
Encore maintenant?
J'ai encore... Oui, quand je regarde ce qui se passe, j'ai des enfants et Je fais au possible pour les rendre les plus vigilants possibles, sans non plus être. Enfin oui, non, on vit une époque grinçante. Je suis en colère sur pas mal de choses, quoi. Sur le foutage de gueule de ce qui se passe en Palestine, entre autres. Bien sûr qu'il y a énormément de choses qui tiennent ma colère au chaud, ouais. Oui, effectivement. On peut pas. Je pense qu'on peut pas. On peut pas. C'est pas seulement. C'est pas le seul véhicule de la colère, quoi. Comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi. Il est important de citer les gens qui écrivent. Qui écrivent ces textes qu'on livre, parce que ils ont tous un parcours différent, une lecture différente de tout ça.
Est-ce qu'ils sont tous en colère, justement ?
Non, tout n'est pas basé justement sur la colère, c'est ce que j'essayais de dire. Non, on est sur un constat d'urgence à différentes époques et différents endroits de la planète.
Est-ce que lire ces textes-là, les transmettre, les rappeler aussi ? Parce que comme vous avez dit, il y a des professeurs, par exemple, qui vous disent merci, vous avez fait une histoire, c'est un parcours chronologique, on a une histoire de ces textes-là, du racisme jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose de thérapeutique aussi, où vous dites, là, je fais aussi une œuvre de pédagogie, de transmission, et ça calme cette colère-là ?
Eh bien, moi, mes deux parents sont nés en Martinique. Je ne parle pas créole. Mon père a voulu que je sois, comme il le disait, plus assimilé que le blanc, limite. Mmh. Voilà ce que ça donne à l'arrivée. Donc c'est tout ça pour dire que il y a plein de choses que je ne sais pas, et au travers de tout ça, effectivement. Ça m'emmène à... Je suis de nature curieuse. C'est pour ça que je suis, après avoir été NTM, je suis encore artiste, parce que justement, il y a des choses qui m'interpellent et je cherche à aller vers. Et là, en l'occurrence, tout ça m'amène à un questionnement sur d'où je viens, mes origines, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis encore en construction, et ainsi de suite. Donc oui, ça a des vertus thérapeutiques à mon encontre.
Je peux pas citer tous les noms des auteurs que vous...
Ah bah là, on en a pour un moment. Voilà, hein. Parce qu'il faut savoir que quand on a commencé, on avait 100 textes.
Donc on a à peu près 25 auteurs là aujourd'hui.
On doit être à une trentaine, trentaine. Mais on en avait 100, et au fur et à mesure de la création, parce qu'on s'est inscrit dans un tunnel de à peu près 3 semaines où on a fait toute la création, et on a joué dans la foulée pendant une semaine aux sorties de ça. La première semaine on avait 100 textes, la deuxième
c'était un spectacle de
80.
Ah ouais.
Ouais, on est sûr.
Mais c'est un crève-cœur de faire le choix. C'est un crève-cœur de faire ces choix-là, non ? De se dire, je dois en sacrifier certains, qu'est-ce qui fait qu'une voix compte plus que l'autre ? Et d'ailleurs...
On va dire le sens du spectacle aussi.
Oui.
Fait que... Et puis surtout, éviter de se répéter. On avait aussi... on n'avait pas envie que ce soit victimaire aussi, parce que parfois, certains textes peuvent nous amener là-dessus. Pour plein de raisons, quoi. Mais déjà, le sens du spectacle, parce que faire un spectacle de ces écrits-là, c'est pas évident non plus, en fait. Et voilà, quoi.
Et pourquoi vous vouliez pas être victimaire ?
Parce que...
C'est un principe de base, de vous dire on refuse cette
position-là ? Ouais, parce que... Alors, je vais le dire comme un comique garagiste, mais moi... j'ai grandi les deux pieds dans la merde, et c'est pour moi c'est le meilleur tremplin dans la vie, en fait, quelque part, pour affronter nos contemporains et l'époque.
Ouais.
Et tout ceci me rappelle un peu mon parcours, d'où je viens, tout ce qui me construit encore aujourd'hui, quoi. Et je ne suis pas là pour pleurer, je suis là pour avancer, je suis là pour raconter les choses avec maestria, le menton vers les étoiles, mais je ne suis pas là pour faire miauler dans les chaumières, mais plutôt pour qu'on comprenne un peu la texture sociale d'aujourd'hui par le biais de tous ces mots, ces textes.
Je vous propose, Joëstar, qu'on entende la voix de Léon Gontran Damas.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
J'ai parfois l'impression de me trouver dans une époque qui procéderait d'une espèce de complexe de culpabilité. On découvre le nègre, on lui découvre des qualités, on l'embrasse, il a beaucoup d'amis, on l'étouffe le pauvre, on l'étouffe, on va finir par le rendre malade. S'il ne réagit pas du tout à toutes ces effusions. Non, mais pour être sérieux, la négritude n'est pas la condition du nègre. La fierté d'appartenir à une race qui a été avilie, qui a été matraquée, qui a été spoliée. C'est une affaire qui a été dénoncée pas d'aujourd'hui, d'aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire, dans cette histoire douloureuse que fut l'aventure nègre. Il s'est toujours trouvé des gens, des fils ou des phobes. Dans un poème que je viens de terminer, je déclare qu'en définitive, fils ou phobes, ça ne fait qu'un. C'est du pareil au même.
Le poète, écrivain et homme politique Léon Gontran Damas, c'est une archive qui date de 1976.
Donc c'est 20 ans après Black Label, qui date de 1956. Joey Starr, comment vous comprenez ce que dit ici Léon Gontran Damas quand il dit au début que la négritude n'est pas la condition du nègre?
Ben non, la condition, c'est l'appellation de notre condition, c'est humain, quoi. Avant tout, voilà, quoi. Je crois que ce mot négritude a été défini par les maîtres, voilà. Mais s'il n'y avait pas eu tout ce mécanisme-là, nous serions cousins, frères, humains avant tout, quoi. Voilà.
Pourtant, c'est un terme de négritude qui a été réapproprié, qui a été retourné par Léon Gontran Damas lui-même, Aimé Césaire.
Vous savez, sans aller aussi loin, je vais reprendre une phrase de mon camarade Koulchen de NTM, qui disait: quand on n'a pas grand-chose, représenter les siens, c'est déjà quelque chose. Donc voilà, on s'est étiqueté comme ça, justement, pour faire corps, je crois aussi, enfin, entre autres.
Il dit aussi, dans la suite de l'archive, qu'il vient d'écrire un poème, justement, sur Phil et phobe. Mmh. Pour lui, voilà, y a les deux, en fait, sont en fait les deux faces d'une même pièce, tout autant détestables l'une que l'autre. Ça aussi, vous le rejoignez là-dessus?
Ouais. Puis Léon Gontran Damas est très dur, hein. Le poème Black Label charge un peu tout le monde, l'esclavagiste, le descendant d'esclave, l'esclave lui-même, enfin voilà. Ouais, il est j'aime son pragmatisme, en fait, donc oui, je le rejoins complètement, ouais.
Donc son refus, justement, de ce que vous disiez juste avant, le fait de se dire d'être victimaire, par exemple, de s'enfermer dans une posture de victime.
Tout à fait. Il faut pas faire table rase du passé, loin de là. Mais justement, s'en servir pour avoir une vraie lecture du futur, en fait, voilà, quoi. Donc, ceci a eu lieu, nous n'oublierons pas, mais servons. Il faut s'en servir pour avancer, quoi. Moi, je peux pas élever mes enfants en leur disant, voilà, le postulat, il est là, les gars, va falloir construire avec. Non, déjà, j'essaye de leur faire comprendre qu'ils ont leur place, ils ont leur regard, et que, voilà, ce que moi je leur lègue ou leur enseigne, enfin leur mère et moi, je veux dire, on a une histoire aussi, et que voilà, tout ceci est porteur de, enfin, pour moi, vous arrivez de quelque part, vous avez une vraie histoire, et j'espère que vous comment dire, en vous servant de ça, vous serez de bons citoyens du monde. Alors, c'est très beau, mais quand on voit l'état du monde aujourd'hui, c'est un peu compliqué, quoi.
Mais c'est difficile de dire t'as ta place, et après, dans la réalité...
Dans la réalité, le regard de l'autre,
détermine justement.
Annule tout ça, oui, bien sûr que c'est difficile, mais voilà, on se doit de faire avec. On est, nous humains, on a les mêmes capacités que les mycoses, on s'adapte à tout.
Quelle différence, enfin vous faites d'ailleurs, parce que ça fait deux fois que vous parlez de vos enfants, Joey Starr, ouais. Vous voyez une différence entre le quand vous étiez petit, vous, ce que vous avez vécu et ce que vivent vos enfants? Est-ce qu'il y a eu un changement justement dans le regard?
Vertigineuse, oui. Moi déjà, je sais pas, à l'âge de mon fils, j'en ai un qui a 16 ans, je n'avais pas autant d'infos autour de moi à sélectionner. Enfin, c'est vertigineux. La différence est vertigineuse. Moi, déjà, j'avais. Je vais prendre un exemple très simple. Quand on fait un anniversaire, quand j'étais jeune, moi, c'était les adultes au milieu et puis les enfants autour, quoi. Donc, on se demandait si c'était l'anniversaire. Enfin, oui. Alors que c'est l'anniversaire de l'enfant. Aujourd'hui, les enfants sont au centre et nous, on est autour. Enfin, voilà, tout change. La lecture, on a plus besoin de savoir comment ils vont, d'être dans le questionnement à toutes les strates pour savoir comment ils vivent. Moi, je sais que je me suis beaucoup fait chier quand.
Quand vous étiez petit.
Ah mais mon enfance, ça a été voilà quoi.
Oui, les enfants sont le centre du monde.
J'ai appris très tôt à suspendre le temps, justement. Et donc enfin nous veillons à ce que justement il n'est pas ça quoi, et que ils aient un
qu'ils puissent parler,
des journées pleines, qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent comprendre que le monde est vaste. Moi. À l'âge de mon fils, je pensais que le monde s'arrêtait au trottoir d'en face, quoi. Eux, ils ont cet objet, par exemple, le téléphone portable, qui est une fenêtre sur le monde, bonne ou pas bonne. C'est à nous de savoir leur expliquer le mode d'emploi de tout ça. À l'époque, nous, on parlait de la télé, mais aujourd'hui, c'est le téléphone portable. Enfin, c'est les réseaux, c'est tout ça. Voilà, le monde est vachement plus vaste pour eux qu'il l'était pour nous, quoi.
Et sur le racisme?
Ouais.
Ça a changé?
Ça a changé. Plein de choses sont faites, hein. On peut pas le nier, mais ça change très lentement. Hein.
C'est-à-dire que cette ouverture du monde n'a pas véritablement bouleversé l'ouverture justement ou les regards.
Bah non, vu que il y a plein de gens qui s'expriment sans, vous savez, on a beaucoup de gens qui jouent sur la méconnaissance. La plupart des gens de l'histoire humaine, donc ça joue encore plus. Non, ça a pas, voilà, comme je dis, il y a plein de choses qui sont faites, mais non, ça a pas vraiment changé, hein. Regardez, ne serait-ce que quand on regarde la manière dont sont traités les différents conflits par les journaux TV, on parle pas du tout de la guerre, de ce qui se passe en République du Congo, mais en revanche, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Ukraine est mis en avant. Je pense que c'est parce qu'encore une fois, l'Afrique est toujours au second plan, quoi. Voilà, quand il faut y aller y puiser. On va pas repartir sur la France-Afrique, mais enfin voilà, quand on y trouvait notre beurre, on en profitait. Maintenant que ces gens s'entretuent entre eux à cause de ce qu'on a laissé, justement, parce que voilà, l'Occident a laissé, ben, là on est d'accord que on est sur un des plus gros génocides de l'histoire humaine et que personne, tout le monde s'en fout, quoi. Donc je pense que ça, on peut le traiter sur différentes strates, et celle du racisme aussi, quoi.
On va écouter, Joey Starr, une autre de vos actualités. Elles sont nombreuses. C'est la série Machine, où là aussi, vous reprenez à votre compte des grandes répliques du philosophe Karl Marx.
Elle a porté atteinte à ce que l'armée a de plus sacré. On peut pas la laisser dans la nature.
Il est où le machin que vous envoyez l'intérim?
L'armée m'a formé.
Déformé!
Tu faisais quoi avant, toi?
C'était des bougies.
C'est donc quoi, tu vas me Chuck Norris?
Le patronat, les syndicats nous font croire qu'on a besoin d'eux, alors que c'est l'inverse!
La camaraderie, on m'a déjà fait le coup. Depuis, j'ai compris que pour survivre, c'est chacun pour soi.
C'est qui, elle?
Une intérimaire.
Une intérimaire? Vraiment?
On diffuse son portrait dans toutes les gendarmeries et on voit ce qui se passe!
Je t'avais dit de pas revenir.
Si tu la retrouves, c'est pas une femme que t'auras en face de toi. Hein. C'est une machine.
Ils reprennent le pouvoir à l'usine.
L'usine, un canon !
Fuck le capitalisme.
Ils débrouillent, hein.
T'es un peu notre porte-bonheur.
Franchement, j'ai une gueule de porte-bonheur.
La bande-annonce de la série Machine, série créée par Thomas Bidguin, réalisée par Fred Grévois, est disponible dès demain, le 4 avril, sur la plateforme arte.tv.
Et dans cette série Machine, Joey Starr, vous interprétez JP, un ouvrier marxiste, ancien toxicomane, qui va donc apporter de l'aide, en tout cas va s'allier au personnage de Machine, ou Corinne Levasseur, ça dépend comment on l'appelle dans la série, interprété par Margot Bansillon. Alors c'est une série qui est très drôle, c'est un objet étrange. Il y a à la fois de la politique et aussi du kung-fu. Et on voit bien cette dimension un petit peu étrange dès l'ouverture, puisqu'il y a une première citation ironique, non pas de Karl Marx, mais sur Karl Marx, de, je vous le dirai après, je lis la citation, c'est « Mon conseil à la jeunesse, lire Karl Marx, trois petits points », et là le nom s'affiche, signé du président Emmanuel Macron. Donc on voit tout de suite qu'on est dans un terrain, une série assez drôle, finalement, avec ce sujet sérieux quand même toujours de la politique.
Ouais. Oui, politique, sociale, enfin, c'est le même ensemble. Ouais, moi, quand on m'a fait le pitch au départ, c'était kung-fu, syndicalisme, marxisme et cyclisme.
Et ça vous a séduit?
Bah, ouais, parce que, non, mais des séries de genre comme ça, ou des films de genre comme ça, on vous en propose très peu en France. Il y en a très peu, en fait, où, voilà, d'un seul coup, on dirait un truc un peu fourre-tout, mais... voilà, on vous en propose très peu, donc on tend l'oreille, et puis à la lecture, ouais, j'ai aimé la manière dont, moi qui ne connaissais pas Marx comme ça, qui ne connaissais pas Marx même, je peux le dire, la manière dont en fait mon personnage s'en sert en punchline dans toutes les situations, enfin voilà, et finalement on se rend compte que Marx était plutôt drôle, quoi.
Bah alors voilà, est-ce que c'est vous qui le rendez drôle, Joey Starr? Et voilà, c'était un peu le brief du personnage. On vous dit, voilà, c'est une série politique, mais il faut quand même que, voilà, ça reste une série qui est divertissante. Donc il faut que vous rendiez drôle quand même Marx. Ou c'est Marx, de fait, que vous, qui en fait a quand même une dimension humoristique?
Je pense que c'est les deux, en fait. Hein, à mon avis, il devait avoir la tête au-dessus des nuages aussi, mais
le menton vers les étoiles, comme
ouais,
vous disiez.
Non, là c'est la tête au-dessus des nuages plutôt. Ouais. Voilà, mais ouais, non, je pense que c'est les deux, ouais, effectivement, c'est les deux. Et puis moi, j'ai aimé la manière dont c'est employé justement, l'épaisseur que ça donnait au personnage justement, cette référence constante à Marx.
Oui, justement, l'humour ne permet pas du tout de ridiculiser ce que dit Marx, mais au contraire, de lui donner vraiment une sorte de puissance, ce qui tranche complètement avec Black Label, où là, il y a quand même une gravité de la colère, pas que de la colère, évidemment.
Non, mais c'est ce qui me plaisait aussi, voilà. C'est que, encore une fois, Fred Grévois, quand il est venu me voir, il m'expliquait que il avait aussi, dans ses envies, dans son cahier des charges, c'était... de raconter Marx un peu aux jeunes générations, en fait, et puis surtout le syndicalisme, ces années 90 là où justement plein de gens sont retrouvés sur le carreau, tout ça, enfin il avait aussi, c'était pas juste faire un film de kung-fu ou autre et d'y mettre de l'accessoiriser avec le climat social du moment. Non, c'est vraiment un ensemble. Voilà.
Est-ce que vous pensez, Joey Starr, que vous devenez un peu un acteur comique aussi? C'est-à-dire qu'on vous fait jouer aussi des rôles où on va vous connaître sous une certaine étiquette qui peut être sérieuse, engagée, qui peut être aussi colérique. Et là, au contraire, en fait, votre contre-emploi devient votre emploi, à savoir être drôle. Faire un peu des gags.
Si vous saviez l'effort que je fais en général, je ne tiens pas une conversation sérieuse plus de 10 minutes en général.
Vous pouvez faire des blagues dans la vraie vie.
Voilà. Ben non, mais je me retiens là. J'ai les doigts de pied compressés dans mes chaussures.
Allez, vous avez plus que 8 minutes à tenir pouvoir. Donc vous assumez parfaitement justement d'être dans ce. C'est pas un rôle pour vous.
Mais j'adore ce que je fais en ce moment, quoi, parce que
Moi, j'ai été élevé par un père qui me disait tu feras jamais rien dans ta vie, et je me retrouve à être flic, syndicaliste, enfin je fais
marxiste,
ouais, enfin voilà, ainsi de suite, et même à faire des lectures, à m'approprier des textes de Lamartine, de Victor Hugo, de mais j'adore, je trouve ça drôle, ça me fait, enfin voilà, ça intérieurement ça me fait rire, quoi. Je suis un, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes fils. Je suis un autodidacte, parce que j'ai un fils de 9 ans qui m'a dernièrement qui m'a dit « Mais papa, en fait, je comprends pas ce que tu fais dans la vie. Tu fais de la cuisine, tu fais du tag. » Je fais « Non, je m'amuse, je vis pleinement, sans être dans l'œil de l'autre. » Donc quand on me fait des propositions, en fait, c'est pas Joey Star qui va, quoi. C'est Didier qui a besoin de ça, quoi, de choses atypiques dans lesquelles il peut s'abandonner, et justement désacraliser
le rappeur des années 90.
Ouais, voilà, ouais, passer à autre chose. Waouh, j'adore. Mais je fais encore des sound systems où je viens en Joey Star, je suis avec l'épaule de DJ, c'est jamais le même DJ. Enfin, il y en a un qui est toujours avec moi, mais voilà, et je vais faire les sound systems pendant 2 heures. Je vais animer avec un mec qui mixe devant les gens encore, parce que j'ai besoin de me dégourdir les jambes de tout ça aussi. Voilà, ça me manque.
Donc maintenant, vous vous en fichez de ces étiquettes-là, vous vous sentez pas obligé d'être validé.
Je m'en suis toujours foutu, en fait. Hein. C'est juste que je pense que j'ai une meilleure compréhension de ce que je fais qu'avant. Quand on est arrivé dans les années 80 avec Cool Chain, personne nous a expliqué ce qu'on allait y faire, quoi. Je vous rappelle quand même que pour faire de la promo, on se retrouvait dans des émissions à caractère social avec des syndicats de police. On nous faisait passer pour les mazoutés de banlieue parce qu'il n'y avait pas d'émission musicale à proprement dit. Donc on allait faire de la promo à chaque fois dans un climat social ou machin, mais
comme
pas,
si vous étiez des porte-voix,
voilà,
en
exactement,
fait,
et on nous parlait pas de musique, quoi. Donc à un moment donné, on a dit ouais, vous êtes bien gentils, et du coup ça a construit une image, enfin par biais des médias aussi, mais ça a construit une image nous concernant. Mais nous, on n'était pas heureux d'aller faire ça, hein. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était d'aller faire du live. Donc on avait une tournée à vendre, un disque à vendre. C'était ça notre propos principal, quoi.
Et vous trouvez que ça a changé, justement, qu'on demande moins aussi aux rappeurs de venir comme des porte-voix des banlieues, bah c'est la musique la plus streamée dans le monde.
Ouais, je sais, ouais. Alors
ça lui donne une place.
Non, il reste encore des gens des gens qui font de la musique, et des gens raisonnés qui font de la musique, il en reste. Mais malheureusement, ce qui fonctionne le plus, c'est ce qu'on consomme comme ça à la minute, à la seconde, machin. Donc on n'est plus. Enfin voilà, nous, on a fait la musique parce qu'on avait un truc à dire, en fait.
Ouais.
Je respecte aussi l'autre côté où il y a des gens qui sont musiciens et qui ont la musicalité même dans des propos légers, tout ça. C'est aussi ça, quoi. Le prisme est large, mais je trouve qu'on s'enfonce un peu quand même intellectuellement parlant, quoi. Moi, pardon l'expression, mais je me fais beaucoup chier la bite quand j'entends ce qui se fait aujourd'hui, quoi.
Alors, on va vous faire écouter une dernière voix qui vous plaira, j'espère, qui vous fera pas chier la bite pour reprendre votre expression.
Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide. C'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades, car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse les morts.
Vous l'avez reconnu, Joey Star, mais je le dis pour les auditeurs et auditrices, c'était la voix de l'écrivain Antonin Artaud en 1946.
Pourquoi vous aimez tant la figure de Antonin Artaud, voilà, un poète, théoricien du théâtre, qui a dénoncé, il a été interné, voilà,
ouais, il a inventé le théâtre radiophonique aussi, c'était un artiste.
C'est un créateur.
Il peignait, enfin. Il était, pourquoi j'aime? Parce que j'ai un penchant pour les doudingues, parce que c'est ces gens-là qui me font exister encore aujourd'hui Quand je dis Doudingue, je pense à David Bobet, avec qui je fais Black Label, mais je pense aussi à Jérémy Lipman, je pense à Fred Grivois, ces gens qui viennent me chercher pour me proposer des choses atypiques qui... voilà, enfin, et j'aime Antonin Artaud pour ça, quoi. C'est y a une folie raisonnée, et puis surtout, enfin, je pense que l'époque devait pas être non plus très à cette époque-là, il était toxicomane, héroïnomane, et à cette époque-là, ces gens-là, on les internait, en fait.
Il était dans un asile, il a passé trois quarts de
l'exemple. En prison, ou avec les fous, quoi. Voilà, quoi. Donc voilà, et je trouve que, enfin, puis j'adore le, comment dirais-je, Artaud, un livre d'Artaud, on peut le prendre à n'importe quel endroit et s'y retrouver, quoi. Voilà, quoi. J'aime son côté écorché. J'aime le fait qu'il soit. On a toujours l'impression qu'il est seul contre le monde entier. Enfin voilà, quand si vous lisez Van Gogh ou Le Suicidé de la Société, c'est pareil. Il traînait avec la Calas. Il a connu Van Gogh. Enfin. Le type, il a vécu pleinement tout ça. J'ai lu des correspondances qu'il avait avec son docteur. Il était en HP. Le mec était au quatrième étage et son docteur était au rez-de-chaussée. Mmh. Il lui écrivait des lettres de enfin, quelqu'un a édité des correspondances de ça enfin voilà. C'est juste magnifique, quoi. Et il y a ce regard sur la société, justement aussi, qui est d'une pertinence, vertigineuse.
J'en ai pas parlé, mais je le signale au tout début du spectacle Black Label. Il est dit la poésie est une arme de construction massive. Antonin en fait partie encore maintenant, même s'il a écrit il y a au XXe siècle. Donc c'est pas une arme pour détruire. Au contraire, vous croyez encore que vous croyez vraiment que la poésie peut construire quelque chose? Que ça a cette force de frappe là.
Surtout les mots, en fait, c'est pas moi qui, on sait tous, quoi, comme on dit, une image peut, comme un texte ou un tableau peut nous emmener, nous faire voyager, et même créer des déclics. Oui, donc je crois en ça, ouais. Ouais, j'en suis un peu la preuve aussi, quoi. C'est-à-dire que le jour où j'ai commencé à écrire des rimes, bon, ça volait pas haut au début, mais à force de, voilà quoi, je me suis construit avec ça, donc oui, j'y crois, oui.
Merci beaucoup, Joey Starr.
Merci.
Alors, vous avez une grosse actu, je l'ai dit toute. Hein. On pourra vous voir dans le spectacle Black Label que vous avez mis en scène avec David Bobet. Il y a aussi Célène Saint-Aimé, Nicolas Moumbounou et Jules Turlet. Ce sera le 6 avril à Rennes, le 31 mai à Marseille et le 2 juin à Lyon. On pourra aussi vous voir dès demain sur arte.tv ou dès le 11 avril sur Arte, donc c'est dans la série Machine. Et j'en profite aussi pour
Le remplaçant qui sort prochainement, là, dans deux,
la trois... série,
la série Le remplaçant
sur
aussi.
TF1.
Sur TF1, ouais. Entre autres.
Et j'en profite aussi pour annoncer le spectacle que vous avez mis en scène de Clarisse Fontaine, cette petite musique que personne n'entend, c'est donc au théâtre des Mathurins à Paris dès le 12 avril. J'ai rien oublié ?
Si, j'ai un code pénal en argot qui sort
chez
là prochainement.
Fayard.
Ouais, chez Fayard. Et j'ai un roman graphique qui sort en fin d'année aussi. C'est 5 histoires sur l'éthylisme. Voilà.
Bon, on vous suivra alors.
Vous êtes bien occupé, Joey Starr, mais je vais vous demander une dernière chose avant de finir cette émission, c'est de faire un choix musical. Soit on écoute Nicoletta, avec qui vous avez chanté il y a quelques années, soit une chanson de Nina Simone. Lesquelles choisissez-vous ?
Ah, vous êtes durs, les gars. Je vais prendre Nicoletta.
Mamie Blue de Nicoletta, encore merci à vous, Joey Starr, et un grand merci à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparées par Aïssa Twendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delasselle. Réalisation Daphné Leblond, prise de son Élise Le. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain.
À demain.
Le vent soufflait plus fort qu'hier.